dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Ben moi je trouve que c'est très bien, je trouve que c'est même une performance parce que les radios libres, vraiment libres, il n'y en a quasiment plus je pense. Et je trouve que celle de Sainte-Afrique c'est presque miraculeux.
Ce qui était extraordinaire c'était les réunions. On avait le bonheur d'être d'accord sur rien, ça a duré des heures et des heures, mais ça avançait tranquillement, ça avançait tu vois. Moi c'est une époque, je veux dire, c'est une époque qui me fait encore frémir quoi. C'était Radio Pirate, à tel point d'ailleurs que l'indicatif, c'était effectivement Radio, Radio Pirate, etc., etc.
Et lorsqu'il y avait, par exemple, l'occupation du Crédit Agricole à Sainte-Afrique, bon, j'étais là pour enregistrer, effectivement, les personnes qui occupaient les locaux de Crédit Agricole. On était là pour faire un petit reportage avec les personnes qui faisaient grève.
Voici, en train d'émettre clandestinement, l'une des 80 radios pirates, libres, locales, l'une de ces radios partie à l'assaut d'un bastion célèbre, le Monopole.
Lorraine Cœur d'Acier, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes sur 100 MHz sans modulation de fréquence et que notre numéro de téléphone est le 223 22 35.
Le Monopole en radio, cela veut dire que seul l'État a le droit d'émettre. Le Monopole date de 1942 et la dernière loi qui le réglemente est une loi de 1974.
Nous revenons à l'actualité. En ce moment même, à l'Assemblée, se discute l'aménagement de la loi sur le monopole de la télévision et de la radiodiffusion en France. C'est un sujet qui provoque de vives réactions. Depuis la multiplication des radios pirates, ou si vous préférez les radios libres, ces radios-là, elles devraient subir des sanctions encore plus graves si le projet qui est discuté cet après-midi est voté par l'Assemblée.
C'est hier soir que la police a décidé d'intervenir contre cette radio pirate qui brave le monopole d'État depuis le début du mois d'avril. Au cours de l'opération, la police a procédé à plusieurs vérifications d'identité. Sur les 45 personnes interpellées, 10 militants CGT seront présentés ce soir au parquet pour avoir violemment résisté aux forces de l'ordre dans la nuit d'hier. Selon la CGT, le matériel radio de Nancy Cœur d'Acier a pu être déménagé avant l'arrivée des forces de l'ordre, ce qui n'est pas le cas à Paris pour Radio Paris 80 investi hier, ainsi que Radio Quinquin près de Douai qui émettait depuis 7 mois.
Ce n'est qu'à partir du 10 mai 80, cas de rares exceptions près, elles seront tolérées, en attente de la loi.
Qui aurait pu croire que la petite bande de copains qui diffusait leur radio clandestine depuis leur voiture mobile, afin d'échapper au radar de la maréchaussée, il y a maintenant 40 ans, viendraient aujourd'hui sur les antennes de leur même radio raconter leur épopée.
Une épopée qui ne parle pas que du passé. Une épopée qui raconte aujourd'hui, qui raconte le présent. Une épopée dont le futur deviendra Radio Sainte-Afrique.
Car l'esprit de Radio Pirate, forgé sur les petites routes du Sud Aveyron, grandit dans la caravane de Péralbe et peaufiné dans les studios de Sainte-Afrique, ce vent de liberté soufflé par Geneviève, Jean, Alain, Nounours, Gilles et bien d'autres dès 1980 est toujours là, imprégnant les murs des studios de Radio Sainte-Afrique, radio vivante, libre et fière de l'être.
De l'âme libertaire du début qui a permis la création de la première structure associative du sud de la France à ne pas nommer de président, de cette âme, il reste toujours une fragrance qui se veut tenace. Ligne de conduite qui a permis de survivre à plusieurs municipalités, à celle de droite comme à celle de gauche, ainsi qu'aux tentatives de récupération diverses. Radio Sainte-Afrique est une des plus anciennes radios associatives, née en 1981, à rester toujours fidèle à l'esprit du début.
Héritière des gènes transmis par des fondateurs de Radio Pirate, gène favorisant un mix entre une radio de combat au service des luttes locales et une radio libre au sens propre du terme, permettant à toutes et à tous de s'exprimer en direct, à la seule exception de l'extrême droite, des racistes et des fascistes, ouverte en permanence au débat et à l'esprit critique, mais aussi à toutes les formes de culture. Bref, un petit miracle de démocratie, certes imparfait, mais toujours vivant.
Les jeunes d'aujourd'hui qui sont à la barre de la radio savent garder le cap que leur ont transmis les anciens. Et sur la route des utopies, sur la route des libertés, vogue Radio Centrafrique, le bébé de Radio Pirate, dont nous allons entendre quelques-uns des géniteurs aujourd'hui sur Dissonance.
Il était une fois...
Radio Pirate.
Ici Radio Pirate. Wouh !
De Radio Pirate à Radio Centrafrique, 40 années d'une épopée radiophonique, toujours vivante et toujours libre, avec Alain Guyot, Geneviève et Jean Sicard sur Dissonance. Bonjour Jean, Jean Sicard, et bonjour Alain, Alain Guyot.
Bonjour Joseph.
Bonjour tout le monde.
Vous faites partie du groupe... peut-être du tout petit groupe au départ, vous allez nous dire, qui a eu un jour envie de faire une radio locale, une radio libre surtout. Et j'aimerais savoir pourquoi. Et à quelle était l'époque, quelle était l'ambiance du moment, etc.
En réalité, avant 81, on a vécu l'époque des radios pirates.
Oui, c'est ça.
Et nous, on a fait quelques essais déjà à l'époque en tant que radio pirate. Et ensuite, il y a eu l'élection de Mitterrand qui, lui, a légalisé ces radios pirates en les transformant en radios libres, disons des radios locales.
Ce qui m'intéresse, c'est cette radio pirate.
Ah, la radio pirate, mais avec Jean. Jean lui avait un... Je l'ai vu arriver un jour à l'atelier, et puis j'avais un atelier d'électronique, je l'ai vu arriver, Jean, puis il m'a dit « il faut faire une radio ». J'ai dit, écoute, on va faire une radio. Donc, il avait un véhicule, et un véhicule, c'était un J7 ou un truc comme ça.
Oui, un fourgon.
Un fourgon. Et il avait, t'avais récupéré, toi, un émetteur qui fonctionnait sur batterie. Hein.
Oui, qu'on nous avait prêté dans l'Hérault à Montpellier, c'était, je crois, Radio Garrigue, je crois que c'était.
Oui, c'est ça, Radio Garrigue, oui. Ce qui fait que avec, dans son camion, donc moi, j'avais ramené une petite console... Et un magnétophone. Et alors, comme te dit Jean, c'était Radio Pirate, à tel point d'ailleurs que l'indicatif, c'était effectivement la chanson Radio Pirate. Je ne me rappelle plus qui chantait ça, d'ailleurs, c'était un groupe, hein. Radio Pirate, etc., etc. Et avec Jean, ben, on s'est baladé tout autour de Saint-Afrique pendant des semaines, et puis on était obligé de se déplacer parce qu'on savait pertinemment bien que on pouvait être facilement repéré par la gogno des flics et des militaires, donc on se baladait avec Jean, donc on se choisissait des itinéraires.
Mais Jean, ouais. Pourquoi avoir envie de faire une radio? Pourquoi pas un journal ou autre chose?
C'est vrai que c'est un peu des coïncidences en discutant avec des amis, notamment Thierry Dumont et Françoise Dumont, qui étaient voisins. Et puis, on a après eu Alain Guyot qui nous a rejoints. C'est vrai que ça nous avait donné envie, dans le contexte de l'époque, d'avoir quelque chose, disons, qui permettait peut-être de faire passer quelques idées locales dans la région.
Et pour les plus jeunes, c'était quoi le contexte de l'époque ?
À l'époque, c'est vrai que les radios comme Radio Centrafrique étaient complètement interdites et on leur faisait la chasse.
Ouais, donc il n'y avait que les radios nationales, les médias.
Bien
les médias. C'était qui le président à cette époque-là ?
Le président de...
C'était Giscard.
Oui, c'est ça. C'était la fin de Giscard.
D'accord.
Oui. Oui, mais en plus, moi, je sortais des télécoms, hein, et je savais pertinemment bien que on n'avait pas le droit d'émettre. Parce que, je veux dire, même en tant que radio amateur, tu étais obligé d'avoir des autorisations. Mais c'est vrai que, quelque part, quand même, dans notre esprit, on était quand même sacrément libre. Hein.
Et vous parliez justement d'idées. Donc, ce n'était pas une radio que pour faire écouter de la musique. C'était une radio où il y avait de l'information, il y avait des émissions. Qu'est-ce que c'était, Radio Pirate ? On en est à Radio Pirate.
Au début, avant de la... Je ne me souviens pas, mais Jean enregistrait des cassettes.
C'était des tests que l'on faisait. On avait préenregistré des cassettes sur un magnétophone que l'on rediffusait
C'est ça.
Mais c'était des cassettes que de musique ou il y avait des
idées?
Non, c'était des discussions, c'était aussi des échanges d'idées entre quelques copains.
Oui, c'est ça. Quand on en reparle, c'est vrai que moi, je me souviens très bien que nos émissions, qui duraient pas longtemps dans la voiture, ça, dans ton camion, ça durait quoi? Une heure ou deux, oui.
Oui, environ.
Mais il y avait déjà des gens qui avaient repéré la radio. Je me souviens de mon copain André Oscola, là, qui habitait au Costa-Gozon. Lui avait déjà... Il y avait un certain nombre de personnes qui avaient entendu ces émissions, des émissions d'essais, quoi, des ballons d'essais. Si.
Et vous disiez aux gens que c'était vous qui faisiez cette radio pirate qui émettait, ou les gens le savaient sans douter?
Ah non, mais c'est vrai qu'on annonçait facilement la couleur, hein, ça, je veux dire, pour le coup, il n'y avait pas de dissimulation. Hein.
Ah, mais les gendarmes pouvaient vous arrêter à ce moment-là, alors.
Les gendarmes, ils nous ont poursuivis pendant je ne sais combien de temps, mais ils nous ont jamais coincés. Hein.
Non, mais à l'époque, de toute façon, le bouche à oreille allait très vite dans la région.
Oui, c'est vrai.
Et donc, cette histoire de Radio Pirate a duré combien de mois ou combien d'années?
Ça a bien duré plus d'un an. Hein.
Ça a duré à peu près plus d'un an. Oui.
Plus d'un an, chaque semaine, vous preniez la voiture ou le camion pour aller émettre.
Oui.
Voilà, c'est cela.
C'est ça, oui.
C'était du militantisme, ça.
Oui, c'était du militantisme au départ. Et ensuite, on a eu...
Pour moi, c'était pas du militantisme, c'était plus de ma pratique subversive.
Déjà, à l'époque, vous vous définissiez comme libertaire ou pas du tout? C'était des discussions vous n'étiez pas de droite, quoi.
Moi, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, en ce qui me concerne, j'étais plutôt du côté des autonomes.
Bon, mais moi, j'étais anarchiste, donc clairement, mais la radio que l'on voulait faire n'était pas une radio anarchiste, c'était une radio libre que l'on voulait. Et ce que l'on a fait, d'ailleurs, dès que Mitterrand a légalisé les radios.
Et donc vous êtes arrivé à trouver, à élargir le groupe de Radio Pirate s'est élargi pour pouvoir avoir Radio Sainte-Afrique.
Il s'est élargi lorsque les radios ont été donc officialisées par Mitterrand.
Voilà.
Et à partir de ce moment, on a fait quelques appels dans la presse pour les gens qui étaient intéressés pour faire de la radio. Et à partir de ces messages-là, on a eu quelques personnes qui ont...
Mais qui nous ont
contactés. Et ensuite, lorsqu'on a fait la radio, Radio Sainte-Afrique, de façon officielle, là, c'était des gens qui étaient intéressés plutôt pour venir s'exprimer à la radio, avant tout. Et c'était des gens de toute opinion.
Oui, c'est vrai, parce que dans les premiers, là, on regardait tout à l'heure avec Jean, on trouvait un gars comme Yvon Gavalda. Ben, Yvon Gavalda, c'était le secrétaire du Parti communiste, je crois, de Sainte-Afrique, quelque chose comme ça.
En tout cas, il était vraiment communiste, disons, historique.
Oui, c'est ça. Par contre, tu vois, c'était très, très diversifié. Le premier groupe... Parce que bon, il y avait eu quelques démarches avec la préfecture, parce qu'en fait, on voulait pas qu'il y ait de président. Donc, parce que par rapport à la loi de 1905, on n'est pas obligé d'avoir un président. On peut avoir autant de membres. Il suffit d'avoir un secrétaire et un trésorier pour faire la liaison avec l'administration. Bon, ça n'avait pas fonctionné. Donc, t'as là la liste des ils étaient une douzaine. Alors, je précise tout de suite que j'apparais pas sur la liste pour une raison très simple, c'est que, étant travailleur indépendant, j'aurais eu quelques difficultés pour continuer à être à destination de la radio, si tu veux, pour faire de la technique et tout. Je pouvais pas apparaître. Donc je suis pas dans la première liste, alors que Jean, Geneviève et puis une douzaine d'autres d'ailleurs. Hein.
Oui.
Mais il est vrai quand même que dans les premiers statuts, si tu regardes, il y a quand même, j'allais dire, une haleine libertaire. Hein. Et puis en plus, bon, c'est vrai que c'était... Les premiers statuts ont été faits dans le sens de l'ouverture, parce que tout le monde désirait qu'il y ait un maximum de gens qui y participent. Quand on relit les statuts, je te les passerai, tu verras le contenu des premiers statuts, c'était quand même sacrément pointé, hein, c'était marqué.
Y a comme une petite musique dans l'air, au pays de Brassens et de Prévert. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Beauvoir et l'abbé Pierre. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Je suis le méchant de l'histoire, compté chaque matin, chaque soir, par des soi-disant philosophes, prédisant une immense catastrophe. Ils parlent d'un grand remplacement, par moi et les miens évidemment. Amis, ceci n'est pas un mythe, aux armes, ces gens vous y invitent. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Brassens et de Prévert. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Beauvoir et l'abbé Pierre. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Ils sont mis sur un piédestal, leur tête en première page du journal, leur livre en tête de gondole, leur texte étudié dans nos écoles. Sa grâce, monsieur le président, les nomme comme c'est intelligent, chevalier de la Légion d'honneur, pour avoir propagé la haine et la peur. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Brassens et de Prévert. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Beauvoir et l'abbé Pierre. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Au pays d'Apollinaire, d'Aragon, de Louise Michel, d'Aimé Césaire, a-t-on pu glorifier ces gens dont le cœur est tellement indigent? Tant de savoir, tant d'ignorance, si peu d'amour pour tant d'arrogance. Ne les laissons pas encore jouer leur musique chaque jour un peu plus fort. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Brassens et de Prévert. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Beauvoir et l'abbé Pierre. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Brassens et de Prévert. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France. Y'a comme une petite musique dans l'air, au pays de Beauvoir et l'abbé Pierre. Une rengaine qui nous offense, dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler douce France.
De Radio Pirate à Radio Centrafrique, 40 années d'une épopée radiophonique, toujours vivante et toujours libre, avec Alain Guyot, Geneviève et Jean Sicard sur Dissonance.
Tu parlais du contenu des émissions, je te signale que parmi les premières émissions, On a quand même eu des sacrées pointures. On a eu justement le camarade Dumont là, qui nous faisait une émission qu'il avait appelée la chronique du bègue. Pour faire une émission de une heure en bégayant à la radio, fallait quand même en vouloir. Hein. Dans le genre, tu vois. Ça, c'était la première année. C'était la première année quand on était dans la caravane à Peyralbes. Ouais.
On était au départ complètement avec peu de moyens.
Ouais.
Et donc, on était carrément dans une caravane que l'on avait montée de façon stationnaire au-dessus de Vabre à Peyralbes.
Voilà.
Et là, vous émettiez plus d'une heure par jour
ou durait plus longtemps que ça.
La radio commençait à émettre, je ne sais combien, 5-6 heures peut-être, avec la musique et tout.
5-6 heures par jour.
Donc ça
vous obligeait quand même, à vous ou à certains, d'être là en permanence.
Oui, c'est là qu'est arrivé Gilles, je crois.
Oui, mais il y avait aussi les bandes musicales que l'on passait.
Oui,
d'accord, voilà. D'accord.
Je ne te dis pas techniquement les problèmes que ça nous posait, parce qu'en plus... Petit exemple, on en rigole, mais on ne peut qu'en rire d'ailleurs. Mais la caravane, même quand elle est calée, c'est pas quelque chose de terriblement stable. Alors quand on passait un disque, tu vois, on avait intérêt à faire gaffe quand on montait dans la caravane, parce que sans quoi, t'avais le disque qui sautait.
Et vous aviez un auditorat de jeunes, d'agriculteurs, de ruraux, de gens du coin, de néo-ruraux.
On devait avoir des gens de toutes sortes qui devaient écouter, mais occasionnellement ils devaient écouter. Mais enfin, comme on racontait beaucoup, beaucoup de choses et on ne se gênait pas pour dire certaines choses.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'était vraiment une radio totalement libre.
Et c'est vrai
que des fois, ça pouvait faire des remous dans le Landerneau.
D'ailleurs, ça en a fait quelques-uns. Oui.
Par exemple, racontez-nous.
Moi je me souviens très bien avoir été interpellé par les gendarmes. Hein. Non, mais on était incontestablement, comme dit Jean, ça devait être à cette époque-là, on s'était pas amusé à faire des statistiques, hein, mais je pense que c'était très très diversifié, très diversifié.
Et quel style d'émission il y avait ? On ne va pas parler de la musique, mais
de tout,
des reportages, des infos, des débats.
Ah ben, il y avait plusieurs choses chez nous, en tout cas. Ouais. On avait même beaucoup d'invités qui venaient pour, parler de leur... c'était des associations, c'était des mutuelles, c'était beaucoup de choses très diverses.
Ouais.
Les gens venaient pour parler de leur activité.
D'accord.
Oui, parce que c'est vrai qu'on avait insisté sur le fait qu'il s'agissait de libérer l'expression, hein.
D'accord.
Donc, c'est vrai qu'il y avait... Mais il y avait aussi... juste un petit peu après, il y avait quand même des émissions qui étaient d'un bon niveau, hein, parce que tu avais, par exemple, Nils qui faisait des cours d'anglais, qui faisait musicologie, etc., etc., à la radio, hein, quand même. Attends, c'était pas... Il n'y avait pas que de la plaisanterie. Hein.
Et en laissant une place prépondérante au local, c'est-à-dire les associations, elles étaient de Sainte-Afrique, de la région.
Ou du département.
C'était devenu un outil au service des associations et au service des gens.
Ah, tout à fait.
Tout à fait.
Et puis c'était l'époque du Larzac, en plus. Hein.
Oui. Et aussi, les gens, surtout, qui voulaient venir s'exprimer. C'était ouvert. C'était une radio totalement ouverte.
Oui.
Et si moi j'arrive en disant je suis du Front National, est-ce que je peux parler sur Radio Sainte-Afrique ? Qu'est-ce qui se passe ?
Là, je me souviens qu'au niveau des premiers statuts, il y avait eu une petite limitation, là, oui. C'est-à-dire que pratiquement tout le monde pouvait venir, mais c'est vrai qu'il y avait une récalcitrance à destination du Front National.
On n'a pas été confronté à ce problème, il faut dire.
Voilà.
Alors, je ne sais pas si la sélection s'est faite naturellement ou pas, ça je ne sais pas.
Il faut dire qu'ils ne nous appréciaient pas beaucoup non plus, ces gens-là. Hein.
Et donc,
ils n'étaient certainement pas tentés de nous fréquenter en plus.
Bien sûr.
Et dans le département, vous étiez la première radio associative libre.
Oui.
Oui, dans l'Aveyron, on était la première, effectivement.
Oui.
Et on a ensuite donné naissance à une petite sœur qui s'appelait Radio Larzac.
Voilà.
On y viendra, mais comment vous viviez ? C'est-à-dire, comment la radio vivait ? Il y avait des adhésions, vous faisiez des fêtes. Comment vous trouviez de l'argent ?
Oui. Il y avait d'abord des adhésions. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, hein, en fait. Les adhérents, il n'y en a jamais eu pléthore. Mais il y avait des adhésions, et à cette époque-là... Te souviens-tu si à cette époque-là, on avait des subventions ? Je ne crois pas. Hein. On n'avait rien. Hein.
Au tout début, on n'avait pas de subventions.
Non.
C'est venu un peu après, avec la libération
des radios libres. Il y a eu effectivement quelques moyens alloués.
C'était les premières subventions, tu te souviens, c'était la mairie
ou Non. Je ne crois pas.
Non. Je ne me souviens plus par quel canal on avait eu les premières subventions. Oui. Bon, ça allait pas loin. On avait heureusement, si tu veux, qu'on s'était organisé entre nous pour le matériel, pour on fabriquait les antennes, etc. Parce qu'on n'avait pas les moyens de se. Moi, je me souviens avoir. On avait fabriqué un émetteur plus un ampli de 50 watts quand on était à Péralbe, tu vois, avec une antenne qu'on avait fabriquée qui était sur le haut du rocher. Mmh. Enfin, je veux dire, c'était vraiment avec des moyens très très limités.
Donc après Radio Pirate, Mitterrand arrive, mai 81, il officialise les radios. Ça va être la fin des 10 années de la lutte du Larzac.
À la vie, nous pas de canon, jamais nous ne partirons. Degré de France, nous gardons Larzac, de Bré de France, nous gardons Larzac.
Les deux premières années de Radio Pirate, comment vous êtes mis au service de cette lutte ?
On a reçu pas mal d'invités, mais pas forcément ceux du Larzac. Ouais. On était peut-être, par ailleurs, un peu trop copains avec eux pour, faire des copinages.
Oui, c'est vrai.
On ne faisait pas des copinages, vraiment, on évitait tout le monde.
D'accord.
Oui, c'est ça.
Et ensuite, dès la fin du Larzac, vous avez parlé d'une petite sœur. La petite sœur est née en 81 aussi, Radio Larzac ?
Ah non.
Non, bien après.
Bien après.
Une dizaine d'années après.
Oui, d'accord.
Oui, on était en relation avec certains, certainement, ce qui a fait qu'on les a un peu inspirés.
D'accord. Oui, on les a inspirés. Et ce que Jean oublie de te dire, c'est qu'on les a quand même sacrément aidés. Parce que pendant tout un temps, ils ont utilisé le canal de Radio Sainte-Afrique, y compris nos émetteurs.
D'accord, ils émettaient sur vos ondes alors.
Oui, ils avaient des émissions qu'ils faisaient à partir de Radio Saint-Af. Après, ils sont devenus autonomes. Voilà, c'est normal.
Nous sommes 103 paysans, invités à foutre le camp. De Bréadi, j'ai décidé, je veux la terre pour mon armée. Mais nous avons tous refusé, pas question de se faire acheter. Pour nous la terre n'a pas de prix, pour nous la terre est notre vie. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie.
Et donc les 10 premières années de Radio Sainte-Afrique,
les 10 premières années de Radio Sainte-Afrique, on est passé de la camionnette à Jean, on est passé à la caravane à Péralbe, et puis ensuite on est passé à Sainte-Afrique.
Oui, dans tes locaux.
Dans des locaux en dur.
En dur à Sainte-Afrique.
Tu te rappelles où c'était ?
C'était à l'ancien hôtel de.
L'ancien hôtel, c'est ça. En face du café de la, du café comment ça s'appelle ?
Oui.
Café du commerce, c'est
en
ça ?
En face du café
Coco
du commerce.
Coco Roustan, c'était juste en face. Donc on était installés nous là au. Là c'était le luxe pour nous. Donc on avait commencé à avoir du matériel. Un petit peu plus puissant d'abord, avec une grande antenne sur le toit et tout. Là, on commençait à couvrir Sainte-Afrique et les environs. Et là, il y avait des émissions, c'était beaucoup plus structuré. C'était pas 24 heures sur 24, hein, quand même. Mais c'était la journée complète. Hein.
Alors, une question pratique, vous aviez votre travail, tous les deux, et les autres copains aussi avaient leur travail.
Oui.
Comment vous faisiez ? Vous libériez à tour de rôle ? Ou alors vous avez déjà eu l'idée de « Ah, on va avoir un salarié ».
À l'époque, on n'avait pas encore l'idée de cela. Non, on avait un planning sur la semaine et avec des horaires que chacun pouvait occuper selon ses possibilités.
Voilà. Très libertaire.
Très, très bien. Est-ce que vous avez souvenir, par exemple, à ce moment-là, ces 10 premières années sans salarié avant de soutien à des usines en lutte ou des ouvriers qui sont venus vous voir ou des syndicats qui vous ont dit mais on voudrait profiter de votre antenne.
Oui, je me souviens très bien qu'il y a eu des délégués syndicaux qui sont venus déjà à cette époque-là, oui. Je ne pourrais pas te dire avec précision parce que je n'ai pas tout dans la tête, ça a 40 ans maintenant. Hein. Mais je me souviens très bien qu'il y a eu des représentants syndicaux qui sont venus. À l'époque où on n'était pas, peut-être pas à l'époque où on était à Peyralbe, à la caravane, mais à Sainte-Afrique, oui. C'était fréquenté quand même cet endroit, hein, Sainte-Afrique, après. Si tu veux, c'était tellement central que tout le monde pouvait venir pendant les horaires d'émission. Chacun était responsable de ce qu'il faisait, bien sûr. Hein.
Et est-ce qu'il y avait l'un d'entre vous qui prenait le micro et qui allait faire aller voir la mairie, oui. aller voir qui se baladait dans le terrain, ou alors il fallait pour parler venir dans votre studio?
À l'occasion, moi je prenais mon magnétophone oui. portatif oui. et lorsqu'il y avait par exemple l'occupation du Crédit Agricole à Sainte-Afrique, bon, j'étais là pour enregistrer effectivement les personnes qui occupaient les locaux de Crédit Agricole. Quand on était allé occuper à Toulouse avec la Confédération paysanne, c'était une séance du Conseil régional, et là aussi il y a eu occupation du Conseil régional à Toulouse pendant, je crois, demi-journée, à tel point que les gens qui étaient là à Toulouse devaient aller voir Mitterrand à Figeac, je crois, l'après-midi, ils n'ont pas pu.
D'accord. Ah, mais c'était très intéressant, Jean. Donc vous étiez reporter et vous aviez déjà...
On le faisait comme ça, on le faisait de façon spontanée, disons.
Oui, ouais. Je m'en rappelle bien en plus, parce que je m'en rappelle même du magnétophone à Jean, parce que je lui ai réparé quelques fois. Je me souviens que c'était un magnétophone, c'était un monopiste Marantz de haut de gamme. Hein. Ça, je m'en souviens très très bien. Hein. Ah, oui. Ça se baladait, on appelait peut-être pas ça micro-trottoir, mais ça se faisait déjà, les reportages à l'extérieur. Ah oui.
Donc c'était vraiment aussi une radio au service des luttes, quoi, des luttes paysannes ou ouvrières, vous avez évoqué ces deux, quoi.
Oui.
Bien sûr. Et quand il y a eu effectivement la grève du Monoprix, pour prendre l'autre exemple, à Sainte-Afrique, oui. c'est exactement la même chose. On était là pour faire un petit reportage avec les personnes qui faisaient grève.
Et puis tu te souviens quand il y avait la fête, la foire à Sainte-Afrique, donc ça se trouvait donc au pied de l'immeuble. On descendait de quoi interviewer les gens pendant la foire.
D'accord, voilà. Et vous organisiez des directs comme
oui,
ça.
Oui, c'est là qu'on a rencontré les gens de l'USMA, etc., etc., etc.
Une année, on a invité effectivement le directeur et le président de la mutualité de l'Aveyron, qui s'appelle l'USMA Mutualité Française Aveyron. Et c'est là que, bon, on a fait connaissance. Et après, je me suis investi beaucoup plus dans la mutualité.
D'accord.
Voilà. À la suite de ce reportage.
Enfin, pourquoi ça peut mener à tout?
C'est pour dire, si tu veux. C'était, je te dis une fois de plus, c'était vraiment... Le désir, c'était ouvrir, quoi.
Alors, c'est fabuleux ce que vous racontez, parce que maintenant, on veut prendre le micro pour aller dehors. On vous dit qu'il faut faire une formation pour savoir les questions à poser, comment parler au micro, tout ça. Et vous l'avez construit, vous vous êtes lancé là-dedans et vous avez appris sur le tas et vous avez inventé des trucs fabuleux, quoi. Les reportages dont tu me parles, là, c'est extraordinaire.
Oui, c'était spontané avant tout, voilà. Et puis surtout amical. Et comment expliquer encore, peut-être un peu orienté dans un sens de lutte quand même.
Président, quand vous dites que la France a décidé ceci, a décidé cela, je ne suis pas d'accord, vous n'êtes pas la France, c'est déjà pas trop mal d'être chef d'État. Voyez-vous, ça me rend presque 68 tardes quand je vous vois vous prendre pour tout un pays. C'est un peu comme si moi j'étais savoyarde et que je disais à mon mec, appelle-moi Chambéry. Au lieu de parler au nom de toute la France, parlez-en votre nom, c'est beaucoup plus sympa. On sera d'accord ou non, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, vous ne m'entendez pas. Voyez-vous, ça me rend un tantinet morose dès qu'un étranger me jette en mer. Chaque fois, parce que la France a fait ou dit telle ou telle chose, alors qu'en bonne française, je n'y suis pour rien. Vous n'êtes pas la France et nul ne vous demande de vous gonfler au point de devenir un État. Quand un bidet se prend pour une armoire normande, c'est un peu ridicule et puis on n'y croit pas. Et si afin de vous faire rentrer dans l'histoire, un sculpteur envisage de vous statufier, attention président, si on a bonne mémoire, tôt ou tard les statues se mélangent au gravier. Tôt ou tard la statue se déboulonne et croule, les mômes et les piafs se réunissent et font pipi caca dessus, parce qu'une statue m'appoule, ça fait de l'ombre au peuple et c'est le phare des cons. Monsieur le président, vous n'êtes pas la France, mais loin de moi l'envie de vous faire la leçon, vu que ce que je chante n'a pas plus d'importance qu'une promesse faite avant les sélections.
Ici Radio Pirate.
Woo! Radio, 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 Radio,
Radio Pirate.
De Radio Pirate à Radio Centrafrique, 40 années d'une épopée radiophonique, toujours vivante et toujours libre, avec Alain Guyot, Geneviève et Jean Sicard sur Dissonance. Et alors les municipalités, parce qu'à cette époque-là, en 81, la mairie de Sainte-Afrique, c'était droite, gauche ?
Sainte-Afrique, droite. C'était une municipalité plutôt de droite, j'ai l'impression, mais on n'était pas opposé à la municipalité par ailleurs, mais on les a tenus informés avant de monter cette radio de façon officielle quand même. On les a rencontrés.
D'accord. Oui. Et comment est-ce qu'ils vous percevaient ? Est-ce qu'ils ont fait appel à vos services, des fois, pour faire passer des infos ou une conférence de presse ou non ?
Au début, ils nous ignoraient. Quelques années après, par contre, ils aimaient bien, certains en tout cas, être interviewés.
Oui, oui.
Oui, parce qu'ils se sont... Dans les campagnes électorales, par exemple.
Oui, oui. Enfin, on se laissait pas avoir quand même. Hein. Mettons-nous oui, bien d'accord. Hein.
Il y a eu quelques interviews quand même.
Oui, oui, oui. Vous faisiez...
Parce qu'on était ouvert à tout le monde.
Voilà.
C'est bien, vous aviez, donc, pour résumer ce que vous dites, vous souteniez les luttes, vous étiez ouvert à tout le monde, vous étiez libre et libertaire. Et c'est ce melting pot qui a quand même fait une ligne directrice de votre structure, quoi.
Ouais, sauf peut-être les ce qu'on pourrait qualifier des extrêmes, sans quoi c'est vrai que tout le monde... Tout le monde pouvait y venir, hein. C'était pas. Ça, si tu veux, on avait aucune raison d'être sélectif, quoi. Sauf quand il s'agissait des extrémismes, quoi.
Et justement, il n'y a pas des structures qui ont essayé de faire une OPA sur votre radio, parce que c'est un sacré outil, cet engin.
Il y en a peut-être qui y ont pensé, hein, quand même. Hein. Faut pas se faire d'idées.
J'imagine, il y en a qui y pensent encore toujours.
Il y en a qui y pensent même encore en ce moment, ouais. Bien sûr. Surtout après 40 ans, parce que je suppose que eux, comme nous d'ailleurs, on n'imaginait pas qu'on serait là devant ton micro 40 ans après, tu vois.
Oui, franchement, c'est extraordinaire. J'ai fouillé. Vous êtes Radio Centrafrique et la deuxième structure demandant une autorisation pour émettre au niveau national. C'est-à-dire en 81, il y en a une avant vous et vous êtes les seconds.
Ça m'étonne. Et tu te rends compte, comme disait Jean, ça faisait déjà un an qu'on tournait dans un véhicule.
Mais vous êtes la seule encore en activité en France, de ces deux structures.
Ah oui, de ces deux structures, oui.
Voilà. Et comment vous voyez ça quand même, Jean ? Parce qu'après, vous êtes parti de la radio, mais comment vous voyez ça, que ce que vous avez imaginé dans votre tête il y a quelques années, ça perdure ? Et qu'il y a encore des jeunes ou des moins jeunes qui envient, et qui restent sur la même ligne que vous faites, c'est-à-dire ouverte à tous.
Ouais.
Envie de donner la parole aux structures locales, aux luttes aux ouvrières, etc.
Non, mais je crois, si tu veux, que qu'on le veuille ou non, je pense que ce qui a participé à la création de cette radio, j'allais presque dire que ça a dû laisser une atmosphère qui est encore à respirer.
Il y a peut-être une ADN de départ qui subsiste.
Ouais, vous avez bien su la transmettre, cette ADN de départ. Hein.
Il semblerait peut-être que oui.
Elle est ancrée durement et puis...
Mais je pense que c'est la conséquence de... Écoute, comment est-ce qu'on pourrait simplifier ? Je pense que c'est de l'honnêteté intellectuelle, hein, c'est tout. Qui fait que c'est suffisamment repérable pour que des gens s'y sentent bien, quoi. Mais c'est vrai que le terreau, on est obligé de le dire, quoi. Le terreau est fondamentalement libertaire, ça c'est clair.
Siete de la noche, 12 del día, 20 de la Habana. 8 de la noche en Moscú, 11 de la mañana en
Donc vous aviez ce fonctionnement sans permanence, sans salarié, chacun faisant son créneau, etc. Puis petit à petit, ça s'est structuré. Est-ce que c'est un bien ou c'est un mal? J'ai vu arriver des directeurs d'antenne, des salariés, des permanents, des journalistes, des conseils d'administration avec des bureaux, enfin tout le monde.
Mais là, moi, je n'y étais plus, donc je ne peux plus parler de ça. Ah, c'était une autre époque, et après, certainement, aujourd'hui, c'est encore une autre époque. Ça, la radio a une vie qui est très diverse, qui continuera certainement à être diverse par la suite.
Et je te dirais que moi, j'ai eu une présidence à la radio 30 ans après. Je suis resté 2 ou 3 ans président. Au moment où on a fait une émission qui a eu un succès fou, d'ailleurs, qui s'appelait Tonton Flingueur. Mais je ne peux pas dire que c'est un épisode qui m'ait laissé un souvenir. Pour moi c'était un drôle de truc. Rien que le fait d'être président, déjà ça correspondait pas à mon ADN. Mais alors quand j'ai vu quand tout ça s'articulait, si tu veux, je me suis dit que si éventuellement je pouvais encore avoir une toute petite place pour venir faire un clin d'œil à la radio, j'avais vraiment pas ma place en tant que responsable, on dirait, ce genre de truc, tu vois. Mais Jean, ça faisait un bout de temps. Lui, il avait été parti bien avant moi.
Moi, je suis resté quand même 6 ans.
Ouais.
6 ans. Oui.
Oh,
en tant que radio libre, plus la période d'avant.
Ce qui était extraordinaire, c'était les réunions. On avait le bonheur d'être d'accord sur rien. Ça durait des heures et des heures, mais ça avançait tranquillement. Ça avançait, tu vois. Moi, c'est une époque, je veux dire, c'est une époque qui me fait encore frémir, quoi.
Et c'est quoi un fonctionnement libertaire dans une structure associative?
C'est-à-dire
on donne la parole à tout le monde, voilà. Tout le monde est entendu, mais qui c'est qui décide et qui tranche à la fin? Tout le monde ou alors on ne tranche pas?
C'était collégial, hein, très souvent.
C'est lorsqu'on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose.
Voilà, mais il faut le temps. Si tu veux, la différence qu'il y a entre la structure organisée et les libertaires, c'est que les libertaires prennent le temps de ne pas être d'accord de manière à pondre quelque chose, quoi. Voilà.
Alors, j'ai devant moi 2 papas, c'est-à-dire il y en a un qui a réussi à couper le fil avec son bébé, et puis un qui a repris du service pour suivre son fils.
Non, mais il faut être tout à fait honnête. Ça vient aussi du fait, si tu veux, que moi, j'ai conservé des contacts avec la radio parce que pendant des décennies, je me suis occupé de la technique. Donc, si tu veux, j'avais encore un petit pied dans la radio. Je dis un petit pied parce que pendant 30 ans, quand même, on a eu de nos successeurs qui s'étaient nommés directeurs d'antenne, avec lequel, si tu veux, moi j'avais des rappeurs qui n'étaient que des rappeurs de bon voisinage, quoi, parce que c'est lui qui a géré c'est lui qui a géré la radio pendant 30 ans. Ceci étant dit, ça a permis à la radio de continuer à fonctionner pendant 30 ans.
Tout à fait.
Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine il vente, à peine il flotte, du genre à faire mon numéro d'inquiet, de voyante, extra-lucide, planté devant sa boule de cristal. Je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule, tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serais, disons, pas franchement, d'un optimisme forcené. Bêtement vu les demain qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai ces bizarres, comme scellé tout au fond de moi, l'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, et il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qui illumine nos aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenin ou en Haïti comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir, la terre qui saigne un peu partout. Mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres, d'autres pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi, quand il est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord, c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline. C'est toujours relever le front quand les autres courbent les chines. L'espoir, c'est prendre la parole sans demander la permission. Et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui prétendent inéluctable, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table. C'est montrer son cul aux sinistres qui possèdent les continents. C'est dire leur fait à leurs ministres, qu'ils soient larbins ou présidents. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours, de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle, que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune, debout rebelle, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
De Radio Pirate à Radio Sainte-Afrique, 40 années d'une épopée radiophonique, toujours vivante et toujours libre, avec Alain Guyot, Geneviève et Jean Sicard sur Dissonance.
Comment vous percevez maintenant avec le temps, avec ces 40 ans ?
Ouais, c'est une aventure fantastique. Moi, tu me projettes 40 ans en arrière, je recommence ça.
Pour moi, ça a été une période de ma vie, c'est vrai. Et dans ma vie, j'ai aimé faire des choses très diverses.
Très
donc, aujourd'hui, je ne suis à la retraite, mais avant, je faisais encore des choses autres que Radio Sainte-Afrique.
Et quoi, par exemple, Jean, vous faisiez quoi ?
J'étais investi à la mutualité de l'Aveyron avec des directeurs, parce qu'on avait quand même 620 employés, jusqu'à 640 équivalents temps plein. Et donc, on a les directeurs généraux, directeurs de la communication, directeurs financiers, directeurs de toutes sortes, et aussi du personnel. Et donc, c'était un engagement important aussi.
Qui aurait pu croire que cette même personne que tu viens de décrire a monté Radio Pirate ?
Non, mais la mutualité, c'est quand même très social, et c'est très complémentaire de mon engagement précédent.
Quand ça fonctionne honnêtement, il n'y a pas de contradiction.
Tout à fait. Et toi, Alain, donc, tu travaillais déjà dans la technique ?
Ah, moi, c'était mon métier, ça ne me posait pas de problème. Et puis, sans quoi, comme autre fréquentation, j'étais à la Comité National d'Action Laïque, enfin, etc., etc., etc. Donc, on avait des chemins variés, divers.
Et que sont devenus les autres créateurs ? Je vois Mme Sicard dans le coin, mais qui devait faire partie. Geneviève,
oui,
je crois.
Oui, Geneviève.
Ah, Geneviève, tu veux dire quelque chose ?
Elle
ne
veut pas nous dire quelque chose ? Si.
Geneviève, elle aurait beaucoup
si.
De choses à dire.
Ah, je peux venir sur...
Moi, j'étais toujours en périphérie.
C'est-à-dire en périphérie ? C'est quoi la périphérie de la radio, de Radio Pirate ?
ça consistait à tenir l'antenne pendant qu'ils émettaient.
Tenir l'antenne à la main.
Elle faisait la technique.
Et puis après, je faisais la technique, ouais. C'est-à-dire, comme dans les radios, j'envoyais la musique à certains moments, etc., etc. Je donnais la parole ou pas, et ainsi de suite. Ça, c'était dans la caravane. Voilà, moi, j'étais un petit peu en retrait quand même. Beaucoup plus en retrait.
Et alors, c'était une histoire de garçons ou il y avait aussi des dames ?
C'est vrai que dans un premier temps, c'était d'abord une affaire de garçons, parce que quand j'y réfléchis, il n'y avait pas tant de femmes que ça. Bah, il y avait Françoise.
Une quand même, oui.
Bah,
de toute façon,
il y en avait deux ou trois. Deux ou trois, quand même.
La porte ne leur était pas fermée, hein, c'est parce que...
Non, c'est vrai, mais bon, il se trouve que, autant que je me souvienne, oui, c'était des compagnes, c'est pareil, tiens, c'était des compagnes des gars qui venaient, bon, voilà. Ça fait que on n'était pas vraiment...
Il faut reconnaître que...
Il n'y avait pas de mouvement féministe, on va dire, voilà.
Non, bien sûr. Mais il faut reconnaître que dans les 12 membres fondateurs, c'est vrai que, globalement, il y avait plus de garçons que de filles, hein. Ça, c'est clair. Mais des filles, il y en avait quand même, hein. Il y en avait 3 ou 4 quand même là-dedans, hein.
Ah oui, sur 12. Sur 12.
Oui, c'est bon, c'est le minimum syndical. Non, à l'époque, il n'y avait pas la parité obligatoire, donc évidemment.
Oh.
Non, je plaisante. Bien sûr. Non, après, je veux dire, c'est vrai, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'était pourtant l'époque où il y avait des mouvements féministes, mais il y a peu de femmes qui ont pris la parole, effectivement.
Et vous avez connu aussi le début de Radio Sainte-Afrique, après ?
Non, moi, 81, j'ai... Si, 81, bien sûr, puisque... Mais j'étais pas tout le temps ici, moi. Je suis arrivé ici définitivement qu'en 82. Donc la période 81, j'étais pas tout le temps là, moi. Donc ce qui fait que, voilà, j'ai pas tout suivi.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'après avoir tenu l'antenne il y a 40 ans, mais cette antenne, elle tient toujours toute seule maintenant et que ça continue à émettre ?
Ben, moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est même une performance, parce que les radios libres, vraiment libres, il y en a quasiment plus, je pense. Mmh. Et je trouve que celle de Sainte-Afrique, c'est presque miraculeux. Moi, je trouve que c'est très bien. J'espère qu'ils pourront encore perdurer assez longtemps.
Mais oui, il n'y a toujours pas de publicité. C'est une des rares radios françaises sans publicité.
Par contre, ils sont quand même assez dépendants des subventions. Ça, c'est le problème. Il est vrai que selon les municipalités, quelquefois, ça peut changer. Donc, ils ne sont pas non plus à l'abri d'un certain nombre de soucis financiers, puisque, bon... C'est un des risques de ces fonctionnements, quoi.
Mais je crois que c'est un outil, la radio, c'est un outil qui vaut mieux que la région sauvegarde, malgré tout.
Oui, parce qu'elle est un peu alors j'ose pas dire un dinosaure, mais elle représente quelque chose qui n'existe presque plus, quoi. Il faudrait presque la maintenir sous cloche, parce que c'est effectivement pratiquement historique, enfin, dans l'histoire des radios, quoi, notamment des radios libres. Dans la mesure où elle a toujours permis à tout le monde de s'exprimer et elle a toujours été pluraliste. Enfin, je veux dire, comme dit Alain, à part les gens d'extrême droite et encore, à la limite, peut-être ça n'aurait pas été impossible. Enfin, c'est vrai que c'était quand même pas ce qu'on souhaitait le plus. Ça aurait
fait l'objet d'une longue conversation.
Oui, je pense qu'on se serait écharpé avec ça. À l'époque, Thierry aurait été favorable. Lui, il disait qu'il fallait laisser tout le monde dire ce qu'il avait à dire. Bon, mais voilà. Ça, c'était des points de vue. Mais c'est quand même intéressant, cette ouverture, j'allais dire, sur tout le monde, quoi. Enfin, sur le monde.
Et dès le départ, vous aviez cette notion de pas de pub, pas de subvention, sinon on va être coincé.
Ben oui, on voyait bien comment fonctionnaient les radios avant et même la télévision d'État. Enfin, on voyait bien comment ça fonctionnait. Je veux dire, c'est un peu pour ça qu'on se disait il faudrait éviter. Alors au départ, effectivement, ça a fonctionné sur le bénévolat entièrement. Enfin, les gens venaient, c'était presque du entre guillemets militantisme. Bon, après, le problème, c'est quand on veut que ça se développe un peu, ben, c'est sûr que ça, il faut aller un peu plus loin, il faut trouver autre chose. Parce qu'après, les gens, ben, ils ont, comme on disait tout à l'heure, leurs propres occupations, leur métier. On n'était pas journaliste de métier, hein, donc c'est pas évident. L'animation, effectivement, ce qu'on disait, c'est ça, on l'a fait sur le terrain. Hein. On a appris à parler devant un micro. Alors la radio, à la différence de la télé, on ne voit pas les gens à qui on s'adresse. Bon, ça permet aux timides de pouvoir parler. Mais c'est vrai qu'à un moment, il fallait aussi envisager que des gens y restent un peu plus, quoi. C'est-à-dire prennent en charge certaines choses. Parce que le bénévolat, au bout d'un moment donné, de toute façon, les gens s'épuisent, les gens s'en vont. En plus, il y a des gens qui sont partis pour des raisons professionnelles, qui vont ailleurs. Donc il fallait quand même un renouvellement, quoi. Voilà.
Mais c'est vrai qu'une radio sans journaliste professionnel ou sans animateur professionnel, sans connaître le métier, ça en fait une radio vivante. Et en plus, vous étiez un sacré espace de liberté.
Ah bah oui, ça, c'est ce qu'on a toujours voulu. Oui, oui, bien sûr.
Ouais. Bah, tu sais, ça se résume à peu de choses. Enfin, moi, c'est le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Il n'y a pas de doute. Hein.
Merci à vous trois. Merci Jean.
Voilà, alors, longue vie à Radio Centrafrique.
Oui.
C'est ça l'essentiel.
Merci, merci Alain aussi. Tu as fait.
À bientôt pour les 40 ans.
Et merci Geneviève, la seule voix féminine du groupe aujourd'hui.
Bah ouais.
Cette émission est diffusée sur les antennes de Radio Centrafrique mardi 26 janvier à 18h. Mercredi 27 janvier à 8h et samedi 30 janvier à 16h. Elle est aussi à télécharger, ou pas, sur le site de dissonance.ovh. Salut
et fraternité.
Pero no tan cerca.